Salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort. Aujourd'hui, un article dans Le Devoir parle de la lente agonie du Thursdays. Puis je regardais, j'ai fait le tour de tout comme chaque matin, puis j'étais pas particulièrement crinqué. Puis là, j'ai fait, je vais vous parler ce matin, sujet très personnel, de mon histoire dans les bars. C'est quoi mon histoire dans les bars? Parce que le Thursdays, ça a été iconique, années 70-80, mais à cette époque-là, j'étais pas à Montréal. Donc, j'ai mis les pieds là des fois parce que je partais avec Michel Michaud, on faisait des allers-retours, nous autres, le même soir. Quand j'étais au cégep, là, oui, vous avez bien compris, Michel Michaud, alias le Rav, le Ravishing Michaud. Alors, le Rav, avait d'abord, la première affaire, c'est qu'il y avait une voiture, lui, qu'il avait achetée neuve. Je me souviens de l'année, en 1984. Et c'était un 300 ZX. Si vous allez dans Google pendant que vous écoutez, là, si vous êtes capable sur votre téléphone ou autre, allez dans Google puis faites 300 ZX spécial 50. Et vous allez voir exactement l'auto que j'avais, qui était littéralement une soucoupe volante. Écoute. Deux tons, argent sur le dessus, noir sur les côtés, des mags avec du doré dedans, T-top. T-top, on a vu ça sur des Camaro, mais très rarement sur des voitures japonaises. T-top miroir, bien entendu. Et puis, je pense tout de suite à Michel Grenier, tu sais, qui écoute Angle Mort tous les jours, qui est le gérant à Mike puis à d'autres humoristes. Puis il m'a connu à ce moment-là. Je ne me souviens pas s'il se souvient de ce qu'on appelait d'ailleurs le char du Rav. C'est que moi, je disais, on va y aller en char du Rav. Puis le monde disait, ah, c'est pas à toi. Je dis, oui, mais c'est comme François Simard, mon associé dans le temps, il disait, si les Arabes achetaient la Tour Eiffel, elle s'appellerait encore la Tour Eiffel. Bon, ben c'est son nom, c'est le char du Rav. Le char du Rav, je veux dire. Je l'ai eu 3 ans. Attends un peu, je l'ai eu 5 ans. Il sortait jamais l'hiver. C'était pas une auto pour l'hiver, pas pantoute. Puis, tu sais, j'étais déjà dans le centre-ville, ça fait que j'avais pas besoin d'une auto comme telle. Tu sais, c'était comme... Je l'avais acheté de mon chum, puis lui, il avait fait un gros accident avec. Vraiment, là, il était avec Martin Bastien, puis il a pris une courbe sur le boulevard Laurentien, arrivé vers Québec. Puis, paf, l'auto a décollé. Tu sais, il a comme été trop vite dans le virage, puis l'auto a décollé. Il devait aller vite en tabarouette, parce que c'était un vrai char de course, tu sais, avec des pneus, là, tabarouette. Ça fait que les assurances avaient payé, puis là, il y avait eu des pièces qui venaient, c'était bien. Alors, quand il me l'a vendu, c'était une auto qui avait payé 30 000 piastres, genre en 84. Là. Il avait acheté ça avec son père, les deux. Puis quand il me l'a vendu, je me souviens, il m'a dit, je te le vends 6 500 moins les réparations qu'il pourrait avoir, dans le sens que, lui, il dit, moi, j'ai tout fait, mais crime, ça reste une auto accidentée. Ça fait que moi, le cave, au lieu d'aller dans un Nissan, j'étais allé là, un genre de garage à Charlebourg, là, en tout cas. Le gars, il a fait les lumières marchent, là, les wipers tournent. C'était comme, j'en reviens pas encore. Fait que moi, il n'a rien vu, le gars. C'était un char de hot. Là. Il y avait 3 litres turbo là-dedans, puis tout. C'est pas le mécanicien du coin qui peut faire ça. Ça fait que, bref, j'avais fait, ah, ben il n'a rien trouvé. L'auto est parfaite. Hey. C'est que là, je passe le premier été avec. Je l'arrange. Je trouve quelqu'un qui a un garage à louer pendant l'hiver, là, tu sais, c'est que je range l'auto. En avril, 1er avril, je me souviens bien, je ressors mon auto, je la plaque, tout, let's go. Puis là, je trouve, je suis à Montréal à ce moment-là, donc, je trouve un concessionnaire, Jean Talon Nissan. Nissan Jean Talon. Donc, comme le nom l'indique, le boulevard Jean Talon, vers l'ouest, là, tu sais, pas au coin Saint-Laurent, mettons, là, mais tu prends Jean Talon, puis tu vas vers l'ouest, puis tu tombes là. Bon, ça doit exister encore. Donc, Nissan Jean Talon. Puis là, ben, t'as la viseur, là, le gars que tu rencontres au service. Fait que là, lui, je disais, écoutez, je viens juste pour mon check-up. L'auto a tout été réparé, puis tout ça. Fait que je laisse l'auto là. Il me rappelle le lendemain. Il dit, j'ai pas des super nouvelles. Il dit, vous avez une pièce qui s'appelle le manifold, qui est comme une espèce de... Je pense que c'est la première pièce qui part du moteur pour s'en aller vers le silencieux, je pense. Je connais pas ça pas en tout. Puis il dit, le manifold, il est craqué, tu sais. Ça fait que ça amène d'autres problèmes. Finalement, ça va coûter 3 000. Pardon? Moi, je m'en allais pour un changement d'huile, là. 3 000 piastres? Si je l'avais fait vérifier comme du monde, moi, j'en voulais pas au RAV, pauvre ravishing. Mais en tout cas, tu sais, franchement, je capotais. Ça fait que là, je me dis, ben, coudon, elle va être top. Puis de toute façon, je l'ai pour longtemps, tu sais. Je l'avais acheté en 1994, moi, c'est ça, 10 ans. Là. C'était un auto qui avait 10 ans, tu sais. Ça fait que je pars. En tout cas, tout ça pour vous dire que les trois années après, chaque fois que j'allais faire le tune-up au garage, ça me coûtait plus cher que celui de départ. Et mon souvenir, c'est que j'ai mis 14 000 piastres sur cette auto-là. 14 000 piastres. Puis je l'ai revendu, savez-vous combien? 3 000. Je l'avais payé 6 500. C'est un auto qui avait 10 ans. Ça a été la pire affaire financière que j'ai faite de toute ma vie. S'il n'y a rien qui va équivaloir à ça, genre, ça me fait capoter. C'est qu'au total, ça m'a coûté 20 000 piastres pour un char que j'ai vendu 3 000 puis qui avait 10 ans. Mais bon, bref. Alors ça, c'est le bout de poche. Le bout de le fun, par contre, c'est qu'avec le RAV, avant même que j'y achète, on partait des fois sur un coup de tête. Là. On était à Charlebourg les deux, puis on disait, mettons, un samedi soir, on fait quoi? On monte ça à Montréal? Et on monte à Montréal, ring! On arrivait, là, on glandait sur Crescent, parce que quand tu connais pas Montréal, t'entends dire Crescent, Saint-Laurent, Saint-Denis. Il y a comme deux, trois rues. Là. Puis je sais plus si ça circule auprès des jeunes, la rue Crescent, c'est pas clair. En tout cas, les jeunes en dehors de Montréal. Puis là, on sortait, mais pas tant. T'sais, tout à coup, on allait manger une croûte. Puis là, il était rendu, je sais pas, moi, 2 h le matin. Puis on repartait. On arrivait à Québec, il était 5-6 h. Puis avec cette auto-là, il flyait. Ça fait qu'il y a des fois où vraiment, je l'ai vu faire de la vitesse, là, comme j'en ai jamais fait moi-même. Là. Ça marchait. Hey, si t'avais vu le char. En tout cas, bref, je vais pas m'étendre juste sur le char du RAV. Mais c'est des bons souvenirs. C'est des souvenirs le fun. Ça fait que moi, donc, ma vie dans les bars, ça a commencé au bistrot quand j'avais... Si je me trompe pas, j'avais 17 ans. Le bistrot, ça, c'est une institution à Québec qui était avant même un cabaret, genre dans le temps des cabarets, là, il y avait une vie de cabaret très forte là, dans les années 40-50, vraiment, à Montréal et à Québec. Cabaret chez Gérard, par exemple, toutes les vedettes de TV de l'époque là, de Dominique Michel, puis tout ça, ça allait tout au cabaret de Gérard. Qui était sur la rue Saint-Joseph, donc dans Saint-Roch aujourd'hui. Mais le bistrot, c'est la rue Saint-Jean. Alors après ça, ça a été acheté par Daniel Quentin et puis Gilles Dumas. Daniel Quentin a été racheté par Gilles Dumas, puis mon chum Jean-Sébastien Doyle a racheté Gilles, puis il a eu ça avec sa blonde pendant 10 ans. La pandémie l'a fait fermer, il a finalement tout strippé à l'intérieur. Puis c'est aujourd'hui, c'est un shaker qui s'installe là, qui, je ne sais pas s'il est monté, mais en tout cas, c'est affiché depuis déjà à peu près 2 mois. Ça fait qu'il va y avoir un shaker. Pour ceux qui connaissent la chaîne, là, c'est un genre de bistrot burger patente avec une clientèle jeune qui marche. Ça marche très bien, il y en a sur Saint-Laurent ici, juste en haut de Sherbrooke. Et à l'époque, le bistrot qui était connu de tout le monde, c'est que quand tu venais de la région de Québec, je parle vraiment même la Beauce, là, toute la grande région de Québec, quand tu sortais avant 18 ans, c'était au bistrot. C'était connu, là, totalement que... c'était. Puis tu sais, tu fais comme si c'était si connu, pourquoi la police n'était pas là plus souvent? Puis ça se déroulait bien, sauf des fois, il y avait des groupes d'armée, là, de l'armée canadienne qui venaient, puis là, c'était des batailleurs un peu, puis... Fait qu'il y avait des fois un petit peu de grabuge, mais bref, la première fois que je suis allé, et j'étais tellement overdressed, c'était une vraie farce. Moi, je pensais, on sortait une discothèque. Je me souviens de ce que je portais. Une genre de chemise blanche avec un col Mao, là, un petit col comme de prêtre, là, mais pas de prêtre, mais un petit col qui lève. Là. Puis des pantalons beige avec un pli en avant. Je veux dire, j'étais tellement quétaine. Puis je vois Steve Bourbeau qui vient me chercher chez ma mère. Moi, j'ai 17 ans, là, je vais chez ma mère. Puis lui, il est habillé bien normal. Puis là, tout ça, tu fais comme, hey, il me semble que je suis peut-être overdressed. T'sais. Puis écoute, sérieux, là, je clashais tellement. Là, ça n'avait aucun sens, mais... C'est ça, j'étais un jeune cancre de 17 ans qui sortait pour la première fois de sa vie, tu sais. Et là, après, j'ai eu 18. Puis moi, mon trip, c'est que je sortais tout le temps tout seul. Je prenais l'autobus, puis je sortais tout seul. Je m'informais où mes chums allaient être, mais je partais pas avec quelqu'un. Je partais tout seul, puis j'allais rejoindre du monde. Fait que là, ça faisait en sorte que dans une soirée, ben, j'allais voir Jean-Pierre Delage avec Christian Fauché au vendredi 13, puis je montais à l'Éden en haut, puis tu sais, je veux dire, c'est mes premières années de club, c'était le même. Alors, en un mot, c'est pas j'allais tout seul, puis j'étais tout seul au bar, puis non, j'allais rejoindre du monde. Mais je prenais pas. C'est comme aujourd'hui le cinéma. T'sais. Au cinéma, j'aime ça y aller au cinéma avec quelqu'un, mais je prends. J'y vais. T'sais. Moi, j'y vais, puis là, tout à coup, il y a quelqu'un en cours de route ou qu'un appel ou qui ah, ben viens, tu sais, OK, super. Mais tu sais, je dis pas on va aller au cinéma, puis je cherche un partner pour aller voir un film. J'ai cette. C'est comme si j'étais déjà de même, là, tu sais. Donc, je rejoins. Ben, au cinéma, je rejoins personne, mais je rejoins tout le temps du monde, bien entendu. Mais dans certaines activités, là, pas toutes, là, bien sûr, mais dans certaines activités, ben je pars tout seul. Pas parce que j'aime mieux ça, parce que c'est comme si je me suis habitué à... J'attends pas, je le fais. J'y vais, tu sais. En vélo, j'y vais. Qui fait du vélo avec moi? Il y a RTD qui fait du vélo, avec qui j'en ai presque pas fait cet été. Les horaires marchaient pas, il faut qu'on s'en ait parlé. Ça fait qu'en tout cas, bref, j'étais de même au début. Puis après ça... Je suis entré à l'université. Pendant le cégep, je sortais... Ça s'appelait le drugstore. C'était sur Saint-Jean. Ça n'existe plus depuis très, très longtemps. Puis je pense qu'on montait en haut. Ça marchait au bout. Mais quand j'étais au cégep, je ne buvais pas. Moi, j'ai commencé à boire à l'université. Je ne prenais pas une goutte. Zéro. Zéro alcool. Autour de moi, les jeunes, ça se gazait. Puis moi, c'était comme... je sais pas. Je me rappelle pas tant pourquoi, là, mais... J'ai pris, sérieux, je sortais au 7-Up, tu sais. Et arrivé à l'université, là, beaucoup de la gang en droit sortait au Vogue, qui est une petite rue qui croise la Grande Allée. Tu sais, la Grande Allée où il y a vraiment les bars. C'est pas énorme, hein? C'est deux rues, là. C'est la rue, je sais plus trop, là, en tout cas, celle du Vogue. Puis il y a l'autre après, que je sais même pas le nom non plus, là, en tout cas, jusqu'au Concorde, si tu veux. Tu sais, c'est des rues où il y a rien, ça fait qu'on se souvient pas du nom, c'est juste son haut. Puis là, au Vogue, écoute, les mercredis, c'était 2 pour 1 sur la Black Label. Ça, c'était dans le temps, là, les plus vieux vont s'en souvenir. Là, il y avait une campagne qui a remis au monde Black Label, mais vraiment une campagne fantastique. Le slogan, c'était « En noir et black », puis c'était toutes des images, tu sais, comme de ruelles, avec super belles filles, super beaux gars, mais très trash, tu sais, très joue-on-joue billard dans un endroit de sous-sol, avec une musique. Et ça avait été, je connais le gars qui avait fait cette campagne-là, ça avait été un succès hallucinant. Il avait pris une bière vraiment d'ultra gazée, là. Ils ont pas changé l'étiquette, puis ils l'ont rendu archi-in. Ça, faut le faire quand même. C'est que ça, c'était dans mon temps, ça, quand on allait au Vogue, 2 pour 1, Black Label. Et pendant l'année, bon, ça avait lieu, mais milieu de semaine, c'était tranquille, mais pendant l'été, calvasse. Alors là, c'était « Sortez la cavalerie ». Puis moi, le mercredi, j'avais une tradition. C'était avec Jean-François Dumas, puis avec mon chum Lydre Dorion. On allait tout le temps à la tour Martello. Il y a 2-3 de ces tours-là en pierre qui sont d'origine, puis qui sont où les plaines d'Abraham, là, juste avant que la côte descende vers le fleuve. Là, c'est une place où ce que les armées stockaient les munitions. Donc, c'est blindé. Là, c'est genre deux pieds d'épais de roche. Si vous allez au Concorde, là, vous passez ou les plaines d'Abraham ou le Concorde, vous envoyez une juste au fond. Là, t'sais. C'est-à-dire que nous autres, on allait s'accoter là, on amenait déjà du breuvage. Et ce breuvage-là, on l'avait pris. Il y a un été, on avait ramené du Molson Indy à Toronto, donc l'équivalent de la F1, mais Molson Indy à Toronto. On avait travaillé là. Hey, je pourrais partir sur 2 heures aujourd'hui. Là. On avait travaillé là. À cause de Daniel Bernier. Daniel Bernier, c'était mon chum depuis le primaire, Charlebourg. Puis un jour, il me dit, quand j'étais à l'université, il dit, pourquoi tu viens pas travailler avec nous autres l'été? On est guide touristique. Il avait fait ça déjà un été, lui. On est guide touristique pour une compagnie qui s'appelle Keating Tour, qui est le nom du propriétaire, Chris Keating. Puis il dit, ils prennent la moitié des étudiants de l'Université Laval, la moitié des étudiants de l'Université de Toronto parce qu'ils veulent avoir du monde en français et en anglais. Puis on prend des classes de fin primaire, début secondaire de n'importe où en Ontario, mais surtout proche de Toronto. Puis on les amène visiter Québec pendant 2-3 nuits, habituellement 3 nuits. Puis il dit, hey, c'est le party épouvantable le jour. On est avec notre groupe, puis après ça, le soir, il y a des activités. Puis à 10 heures, tout le monde va se coucher, mais nous autres, on s'en va tous au Dagobert. Puis écoute, moi, j'ai fait crime, ça a l'air le fun. Puis c'était bien payé parce que tu n'avais aucune dépense. Tu étais logé, même si j'étais à Charlebourg, j'étais logé dans les hôtels que le groupe réservait. Le guide avait sa chambre. Tous les repas étaient payés parce qu'on allait souper avec le groupe, on dînait avec le groupe, on déjeunait avec le groupe. C'était tout payé. Fait qu'à la fin de l'été, crime, tu faisais pas une grosse paye par jour, mais tu dépensais rien. Ça, là, c'est un souvenir hallucinant. Puis à un moment donné, il y a une fille qui travaillait pour Keating, comme nous autres, une guide, elle dit hey, « moi, ma mère, elle s'occupe du catering, là, tu sais, de la bouffe là, que tu engages quand tu fais un événement, là, tu sais, le traiteur, voilà. » Pour le Molson Indy, ça vous tente-tu, les gars, quand la saison de Keating finit, c'est le week-end d'après. Ça fait qu'on descend là, nous autres, on part de Québec avec la Renault 5 à Daniel Bernier, puis on s'en va là. Je me souviens même plus où on couchait, je me souviens de rien. Puis moi, j'étais attitré à la suite Pepsi, donc c'était vraiment le siège social du Canada. Toutes les grosses compagnies étaient comme ici, la F1. Puis j'étais barman, tu sais, mais barman, tu dévisses une bière, tu as un rum and coke, tu sais, barman, c'est un front, mais bref. C'est que pendant toute la course, puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que la course finit à 4 heures, puis tout le monde s'en va. Fait que là, moi, dans ma tête, je dis à Daniel Bernier, je fais « Attends une minute, là. Moi, mon fridge, là, il est plein. » Fait que tu penses-tu vraiment que le vice-président marketing de Pepsi, quand il a calé une bouteille de gin, puis qu'il en reste le trois quarts, puis avec de la bière, du vin, puis tout ce que tu veux, tu penses-tu vraiment qu'ils ramènent ça chez eux, là? Le boss de Pepsi au Canada, non. Sauf que la bouteille est payée. Fait que là, moi, je fais comme, attends une minute. Mon fridge, il est plein. Le fridge à Daniel, il est plein. On a tous travaillé dans des suites. C'est full breuvage. Puis c'est payé. Fait que c'est pas comme genre, ah, oh, le boss est pas là, on y vole ses bouteilles. Non. Fait que là, lui, il va faire quoi, le traiteur? Il va ramener une bouteille de vodka à moi. Tu sais, c'est de la merde. Moi, je fais comme, hein? C'est qu'on s'est trouvé des sacs, des genres de sacs de hockey. Je te le dis, là. Là, tu sais, je fais le geste, là, tu prends ton bras, puis tu le mets dans le fond du frigidaire, puis là, tu ramènes vers toi. C'était comme ça qu'on vidait le frigidaire au complet. Écoute, on est revenu en Renault 5, là. On était quatre dans le char, dans une Renault 5, puis le coffre en arrière, c'était que des bouteilles. Je me souviens qu'il y avait de la vodka, du schnapps, des caisses de 24. L'auto était littéralement penché, là. Tu sais, tu nous voyais aller, là, puis c'était clair que le coffre, il y avait je sais pas combien de tonnes de ciment dedans. On avait 8 heures d'auto à faire. Puis d'ailleurs, l'auto avait tombé en panne. Il y a un gars avec une piste d'accélération qui était venu. C'était incroyable! Ça fait que ça, c'était la période université. C'était très le vogue. Et pendant ce temps-là, le Dagobert, que vous avez tous entendu parler, marchait aussi. Mais moi, j'étais étudiant en droit, le Dagobert. Hey, on n'allait pas là, c'était quétaine. C'était la banlieue qui sortait de Dagobert. C'était tous les farmers de la Rive-Sud. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'à Québec, quand tu étais sur la Rive-Nord, donc Charlebourg, Beauport, Québec, Sainte-Foy, Sillery, ça, c'était très snob. La Rive-Sud, là, c'était des tracteurs, là. C'était comme Lévis, aïe, aïe. On connaissait personne, d'ailleurs, de Lévis. C'était mort, tu sais. C'était peut-être vrai. C'était peut-être vraiment... Parce qu'il n'arrête pas de dire que ça a boomé au bout de la Rive-Sud. Moi, je me jette mes pieds là, mais bref. Ça fait que... Donc, c'était eux autres qui meublaient le Dagobert. Puis... Alors, là, en vieillissant, et d'ailleurs, ça a toujours été mon gag, le Québec, il y a une ligne selon l'âge. C'est-à-dire que tu commençais au bistrot, qui est carrément proche du Vieux-Port. Après ça, tu allais au Vogue. Après ça, tu allais au Dagobert, c'est la Grande Allée. Après ça, tu allais... Il y avait le Palladium qui était à Sainte-Foy. Après ça, tu avais le Beaugart. C'est toujours une ligne vers les ponts. Puis j'avais entendu parler d'un bar qui était vraiment pour les has-been de bar, qui s'appelait le Raspoutine, qui, je crois, était dans un hôtel proche du Boulevard Laurier ou je sais pas trop. C'est que moi, mon gag, c'était tu pars au bistrot, puis là, tu t'en vas tout le temps dans le même sens, puis là, tu finis au Raspoutine, puis après ça, si ça a toujours pas marché, il y a les deux ponts de chaque côté, tu sais. Ça fait que... Mais c'est vrai, c'est vraiment fait comme une ligne, là, à Québec, une ligne temporelle, c'est fou. Et là, j'ai déménagé à Montréal, puis à Montréal, il y a eu... Sérieusement, là, le bar que j'ai trouvé le plus hot à Montréal, il a changé de nom 2 fois, mais au début, ça s'appelait le Eugène Patin. Très weird. C'était une bâtisse Saint-Laurent-Coin-Bernard. Saint-Laurent-Coin-Bernard, je pense, là. C'est Saint-Laurent, c'est sûr, me semble c'est Coin-Bernard. Puis c'était beaucoup l'Université de Montréal qui sortait là. Ça me faisait penser au Vogue au bout. C'est-à-dire qu'au Vogue, moi, quand j'allais là, j'avais 20 ans. Puis au Jeune Patin, mais j'étais rendu 25-26. Tu sais, j'étais arrivé à Montréal vers 23-24. Dans ces... Je suis jeune vingtaine, là. Puis je sortais là avec Morancy. Morancy, c'était déjà mon grand chum, François. Puis là, on allait là, tous les week-ends, là. Tu sais, Julie Luneau, qui était ma blonde dans le temps, je l'ai connue là. Puis c'était vraiment comme ça. Sérieusement, là, c'était ce qui se rapprochait le plus du Vogue. Après ça, j'ai eu une période un peu... on sort dans les clubs, là, tu sais. Puis il y avait le Gallery. Là, je saute des étapes, mais c'est parce que je ne vous parlerai pas une heure de ça, là, mais... il y avait le Gallery. Puis je me souviens que le Gallery, ça a été une des dernières discothèques que j'ai faites. La dernière étant le Radio Lounge, où là, je sortais beaucoup avec Dumpack. Puis le Radio Lounge a commencé au deuxième étage Saint-Laurent, un petit peu près Prince-Arthur, puis a déménagé à un moment donné dans un gros local, trois étages, à côté de ce qui était le Shed Café, toujours Saint-Laurent, là, entre Sherbrooke et Prince-Arthur. Puis moi, j'ai acheté un condo là. À l'époque, je restais à quelques rues de là. Ça fait que c'était ça, mon quadrilatère, tu sais. J'ai toujours été dans le coin du centre-ville, mais ça, ça a été mon premier quadrilatère où il y avait, évidemment, je pense à Billet Ouvert qui m'écoute, le BDG. Alors, on est-tu allé au BDG? Le BDG, c'était, et c'est maintenant encore, le Vol de nuit. Donc, qui est un bar qui est maintenant tout rénové, d'ailleurs, très beau, un beau bar chic. Je dis qu'il est beau, je l'ai vu par la fenêtre, je suis jamais allé, mais ils ont fait une belle job un peu, tu sais, feutre rouge là, de l'époque. Nous autres, c'était, écoute, ça s'appelait Bol de nuit, mais on l'appelait tout le temps le BDG pour bar de gazé, là, tu sais. Puis on n'a jamais dit Vol de nuit, parce que quoi? Parce que vous vous en doutez, c'était tout croche, puis c'était plein de gazé qui était là tous les jours, en tout cas. On est allé là souvent, on a monté mon classeur au BDG, là, oublie ça, là. Tous nos meetings, c'était à coup de sangria, puis c'était fantastique, là. Honnêtement, on a vécu de quoi, nous autres, c'est malade, là. On s'est parti de business à coup de sangria dans un bar, tu sais, c'est comme, waouh. Puis après ça, ma carrière a terminé de discothèque, là, si tu veux. Ça s'est terminé, le grosse discothèque, là, Jean Gallery, ça, je suis parti parce qu'à un moment donné, un soir, les dimanches, ça marchait beaucoup, je sortais des fois le dimanche, puis... Ça faisait bandit, là, tu sais, j'ai comme, ah, j'ai toujours été un peu peureux de ces affaires-là, j'aime pas ça, là, quand je vois que c'est des gangs de... J'ai fait, ah, c'est fini. Puis après ça, je crois, me semble qu'à peu près dans la même période, il y avait du Radio Lounge, j'y allais souvent avec Dom, puis ça, c'est mort dans l'œuf aussi, mais là, ce que je vous parle, c'est pas il y a 4 ans ou il y a 6 mois, là, t'sais. Ça fait 15 ans, là, de ma foi du bon Dieu, que j'ai... Je sais pas c'est quoi une discothèque. Je sais même pas à Montréal, sont où les discothèques? C'est comme la Boom, ça marche-tu encore en haut de chez Paris? Le Rouge, ça marche-tu encore au coin Prince-Arthur-Saint? Tu sais, j'en ai pas la moindre idée. Puis c'est normal, parce que normalement, c'est du monde de 20 ans qui sort là, pas du monde de 50. T'sais. Mais alors, je vais terminer là-dessus. C'est juste des bons souvenirs. Puis je trouve ça bien plate du monde qui n'ont pas connu ça. Parce qu'ils étaient matchés trop de bonheur, parce qu'ils ne sont pas allés à l'école assez longtemps, parce que je trouve ça plate. T'es pas obligé de passer 10 années de ta vie dans les clubs, les discothèques puis les bars, je suis bien d'accord. Mais il y a du monde pour qui c'est un univers totalement inconnu, puis il y a du fun. Alors, je ne sais plus aujourd'hui. Si ça ne marche pas, c'est peut-être parce que c'est, je ne sais pas. Mais il y avait du fun à avoir, mais grave. Écoute, je veux dire, dans le temps, juste du dating, où vous pensiez que ça se faisait? Pas d'Internet, pas de cellulaire, rien, là. Ça n'existait pas, là. C'était bar, un peu l'école. Mais c'était dans les bars. On laissait un numéro, on prenait un numéro sur un papier, on appelait chez la mère de l'autre, ou bien là, quand on était rendu plus vieux, évidemment. Mais on n'avait pas de cellulaire, on n'avait pas. C'est, l'Internet, c'est arrivé comme en 95. Ça fait que... Pardon, là, mais tu sais. Ça, c'est un autre sujet. Je partirai pas à matin parce que sinon, je finirai plus. Mais tu sais, justement, le dating, là. Qu'est-ce qu'il y en est? C'est quoi la. On dirait que personne ne peut me répondre vraiment. Personne ne peut me répondre. C'est quoi? J'aimerais que quelqu'un puisse me dire. Moi, je vais te le dire, je le vis, là. J'avais, mettons, 19 ans quand mon classeur était fort. Puis après ça, Tinder est arrivé. Donc, genre, mettons, 7, 8 ans, 10 ans plus tard. Tu sais, quelqu'un qui aujourd'hui aurait 35, puis qui avait, ou 30, puis qui avait 20 ans, puis que j'aimerais ça avoir, parce que moi, je peux pas, je sais pas, Tinder, tout ça, je suis allé 10 minutes, je sais pas ça fait combien de temps, puis j'ai fait, je trouvais ça zéro, la clientèle, là, zéro. Puis je suis plus là-dedans, là, je suis plus dans le dating.bar, là, tu sais. Mais j'aimerais ça quelqu'un qui a été actif sur les deux, puis vraiment, mon classeur, pas réseau contact. Puis qui a été actif, là, puis qui a eu des dates, là, c'est quoi la différence? Moi, je pense que Tinder a tout scrappé. Je pense que nous autres, mon classeur, c'était vraiment un site de dating qui était vraiment efficace. C'est-à-dire que tu voulais un one night, mais avec du monde qui ont de l'allure, t'en avais, puis tu voulais combien de fois, combien de centaines de personnes se sont matchées? Combien de fois je me fais dire des messages? Pascal Bérubé du Parti québécois, qui m'écrit, parce qu'à cause du FM 93, puis qui dit, hey, je suis avec du monde, ils se sont rencontrés sur mon classeur. Ça arrête jamais! Ça arrête jamais. Mes propres partners, leur blonde, c'était mon classeur. C'était. C'est Biou, c'est rencontré mon classeur, la blonde RTD, mon classeur total. Ça fait que tu fais comme... t'sais, sérieux, là. Ça fait que, voilà, donc aujourd'hui, écoutez, c'est un épisode de même, là, où ce que je voulais un peu... Je sais pas si ça m'a interpellé, cette affaire-là. Je dis, quand même, je n'ai jamais parlé de mon histoire de club. Puis c'est ça que je veux dire, c'est que j'ai aimé ça, cette période-là. Puis je trouve ça plate, évidemment. Le monde, tu n'es pas obligé, tu sais, comme moi, du tir à l'arc, là, n'est pas fait. Quelqu'un qui me dirait, ah, tu manques de quoi, il a peut-être raison. C'est pas un must. Mais je trouve que quand t'as 20 ans, là, c'est le temps d'avoir du fun, là. Je le disais, moi, si j'étais une fille, jusqu'à 25 ans, c'est pas le temps de penser à la couleur des murs de ton futur chambre de bébé, là. Jusqu'à 25 ans, tu vas à l'école. Tu vas, ben 25, c'est un peu tard, là, mais en voulant dire, calvasse, allez à l'école, là, puis vous réglerez vos histoires après, là. Puis c'est ça, là. C'est comme... Après, t'as le temps de tout faire. Le problème, c'est quand on a 20 ans, puis surtout les filles, c'est quand ils en ont 13, ils se pensent donc hot, puis ah, oh, moi, je suis mature, puis telle affaire. Pourquoi c'est pas l'inverse? Pourquoi c'est comme... Voyons donc, mature, je serai mature quand ça sera le temps. Là, c'est le temps de triper, voir du monde, vivre des affaires, let's go. Mais bon, regarde, chacun mène ses affaires comme il veut, mais moi, tout ça pour dire que c'est une période bourrée de souvenirs, hyper le fun, où ce que d'après moi, j'ai appris aussi à socialiser plus que si je n'étais jamais allé, parce que tu sais, c'est des endroits crowded, il y a plein de monde. Il y a un peu un côté jungle dans lequel tu fais OK, on va me mettre à l'aise là-dedans, tu sais, puis il y a une effervescence sociale qui existait, qui aujourd'hui, je pense que les gens, c'est 100% de la première vitesse, c'est une application de rencontre. C'est que tu n'as même pas cette capacité-là de dire hey, je vais aller y parler à elle. T'sais, c'est comme, je pense que tout le monde fait juste de la première vitesse avec une application. Donc, ça se peut-tu qu'après, tout le monde est un peu plus malhabile quand il y a le temps de jaser un peu, parce que c'est comme, tu sais, quand tu regardes du monde là, qui ne calcule plus jamais, là, 7 plus 13, là, ils l'écrivent là, sur une calculatrice, là, c'est fini le calcul mental. Ça se peut-tu que le dating, plus personne fait une première vitesse à froid, puis c'est comme toute la chaîne de communication qui est brisée. Ça fait que c'est peut-être ça qui est arrivé aussi. C'est pas normal qu'un geste bassement humain comme casser la glace soit maintenant 100% remplacé par une machine qui s'appelle une application de rencontre. Mais là, c'est une théorie. Ça fait que je vous laisse là-dessus. À demain.